Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette première édition de Radio Foot International, puisqu'aujourd'hui, Ligue des Champions, deuxième soirée à travers l'Europe et deuxième édition de Radio Foot International, vous en avez l'habitude, et ce sera à 21h10 en temps universel. Dans cette première émission, nous évoquerons des Parisiens attendus dans le chaudron turc de Galatasaray, le club d'Istanbul à la fibre francophile avec ses 7 anciens joueurs de Ligue 1, dont le Colombien Falcao, mais le champion en titre de Turquie a laborieusement commencé sa saison et il aura bien besoin de ses volcaniques supporters pour stopper la dynamique du PSG toujours stimulé par la Ligue des Champions. Un PSG qui, au coup d'envoi, pourrait se passer comme face au Real de Kylian Mbappé, encore convalescent. Attention au piège de Galatasaray, prévient en tout cas le capitaine Thiago Silva. L'heure du rebond pour le Real Madrid qui reçoit Bruges à Santiago Bernabéu, de quoi peut-être provoquer le talent d'un autre Belge, Eden Hazard, que la recrue des Merengue assure ne pas avoir perdu son talent, bien sûr. Au programme aussi la Juventus de Cristiano opposée au Bayer Leverkusen et puis Tottenham et son gardien Lloris face au buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski. Pour évoquer tous ces sujets aujourd'hui, Xavier Barré est là. Bonjour Xavier.
Bonjour Annie, très heureux d'être avec vous.
Oui, nous aussi, très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui avec aussi Salim Baumgali de RMC Sport. Bonjour,
bonjour
Salim,
Annie, bonjour à toutes et à tous.
Qui arrive directement du crachin anglais.
C'est ça, c'est ça. Hein,
bon, mais ça va être le crachin dehors à Paris, oui, j'ai l'impression. Aussi. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie.
Vous allez bien ?
Oui, oui.
Merci de venir ici dans cette émission, vous aussi. David Finzel est là, Laurent Salerno aussi. Radio Foot, c'est parti. Soirée spéciale donc sur RFI Ligue des Champions, parce qu'avant la deuxième édition de Radio Foot International, vous retrouverez évidemment nos amis du service des sports, notre envoyé spécial sur place, Olivier Pron. Je crois qu'il est déjà là avec nous. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Madame Gasnier, bonjour à tous, messieurs Doucet et compagnie, là j'ai entendu. Ah, bienvenue, mais... bienvenue. Ici, ils nous ont quand même déjà mis la musique.
Ouais, hein. On entendait là les tests,
c'est
hein,
pour,
les premiers
c'est
tests.
C'est pour nous intimider.
Certainement. En tout cas, soirée donc à partir de 20h57, heure de Paris, et 18h57 en temps universel pour suivre ce match et les autres qui se dérouleront en même temps. Il y aura Martin Guez dans le studio ici à Paris. Alors vous les avez entendus, les supporters hein, de Galatasaray, évidemment très présent lors d'autres matchs où ils chantent pour encourager leur équipe, mais aussi impressionner l'adversaire. Le club d'Istanbul qui a remporté cette année son 22e titre de champion. Des passionnés, ses supporters, par le football et par leur club, présentés même parfois comme des fanatiques. Ils savent mettre de l'ambiance en tribune. Ils seront près de 50 000 ce soir et il y aura quand même 800 Parisiens. En tout cas, c'est ce qu'on annonce du côté d'Istanbul. Alors une ambiance de folie, c'est ce que nous a raconté Eric Rabessandratana, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui était de l'aventure lorsque le PSG avait joué à Istanbul en 2001. Messieurs, vous connaissez ce stade Philippe Doucet ?
Oui, oui. Alors l'ancien était plus impressionnant.
Oui, ça a changé en 2011.
C'est un tout petit stade, il a toujours le même nom, mais il faisait quoi, peut-être 25 000 à tout casser. Maintenant c'est une enceinte moderne de 50 000 places.
Mais ça a l'air chaud aussi.
Ah, mais c'est doublement chaud.
Voilà,
c'est non, c'est encore pire avant parce que le public était carrément collé au terrain et autres, mais honnêtement, l'ambiance n'a absolument pas décru. C'est une ambiance absolument fantastique que j'ai vue dans les deux circonstances. C'est-à-dire quand l'équipe de Galatasaray ne marche pas, C'est hallucinant, c'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, vous êtes supporté par ce public. l'adversaire, oui. Vous êtes supporté, non, mais le Galatasaray est tellement honni et détesté à ce moment-là par son propre public que c'est une véritable aide et que vous gagnez à l'extérieur, mais alors c'est une balade quoi, mm-hmm. de santé. Et à l'inverse, s'ils sont bien, ça peut être très 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 chaud. Ouais. Effectivement, ça emmène dans d'autres épreuves.
Il y a quand même un élément qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'évoquait Eric Rabessandratana en 2001. C'est effectivement le stade et surtout la discipline du public turc. Parce que à cette époque, effectivement, c'était des petits stades extrêmement dangereux où les joueurs avaient peur de se faire agresser. D'ailleurs, c'était arrivé, si je me souviens bien, probablement pour la dernière fois, aux Suisses lors d'un barrage pour la Coupe du Monde 2006, où vous aviez des joueurs, dont un défenseur qui évolue à la JOCR, qui avait été arrêté plusieurs semaines parce qu'il avait pris un coup de pied d'un supporter, enfin ou d'un accompagnateur, on ne sait pas trop, dans le tunnel d'accès. Non, mais il y avait un vrai danger à aller dans ces stades en Turquie. Aujourd'hui, effectivement, là, faut rappeler que le pouvoir turc voulait organiser l'Euro 2016. Ça leur a été refusé. D'ailleurs, du coup, ils sont pas présentés pour l'Euro 2020. Mais ils ont toujours l'idée d'organiser une grande compétition internationale, l'Euro ou la Coupe du Monde. Et oui. Donc, ils ont fait un vaste projet de rénovation des stades, enfin, de construction de nouveaux stades.
Il y a aussi un vrai enjeu politique autour du football en Turquie.
Et désormais, le public est chaud, mais il n'y a plus les dangers qu'il y avait avant. Vous pouviez être victime d'agression dans les stades.
Et pour prolonger les propos de Xavier, on rappelle que cette saison, il y a deux finales qui sont à Istanbul. La première, c'était la Super Coupe d'Europe, enfin finale. En tout cas, c'était la rencontre entre le vainqueur de la Champions et de la Ligue Europa. Et il y aura donc la finale de la Ligue des Champions également à Istanbul. Donc effectivement, les stades se doivent aujourd'hui d'être modernes, puisque seuls les stades 5 étoiles, c'est la notation UEFA, peuvent se permettre de recevoir de telles rencontres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est effectivement dans des stades modernes qui peuvent recevoir et qui surtout sont sécurisés. Et
d'ailleurs, il y a une bonne dizaine de stades extrêmement récents en Turquie qui valent entre 35 et 50 000 et qui valent des très beaux stades en Europe. Les conditions du championnat de Turquie, en tout cas le contexte.
C'est prêt.
L'environnement, c'est prêt.
Juste pour clore sur la sécurité, il y a plus de problèmes aujourd'hui dans les stades turcs. Il y a des problèmes avec les supporters turcs quand ils viennent dans les pays, dans les villes occidentales et qui sont effectivement sous-estimés souvent.
Lyon s'en souvient.
Lyon, par exemple, quand ils ont joué contre Beşiktaş.
Et on verra ça France-Turquie dans pas longtemps au Stade de France.
C'est possible. Alors qu'en Turquie, justement, les forces de police savent comment sont fanatiques les supporters et ils sont surveillés de très près.
Olivier Pron, si cette finale se dispute au mois de mai à Istanbul dans ce stade, peut-être que le PSG en reconnaît. Sens.
Ah, c'est pas le même stade.
Oui, c'est pas le même.
Oui, ça sera pas le même stade. Je crois qu'au Paris Saint-Germain, à Lyon, on va essayer de se garder de tout pronostic.
On va prendre match après match.
On va pas s'emballer. Le 30 mai, c'est tellement loin pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et Istanbul, oulala, faudrait commencer à partir dès maintenant. Dès ce soir, faut commencer le voyage.
En tout cas, Olivier, l'enceinte, ce soir, vous allez peut-être la découvrir, mais vous avez quand même goûté, vous, à ce public turc. On évoquait des matchs chauds et ce fameux France-Turquie, enfin Turquie-France au mois de juin dernier. C'était à Konya et là, on peut dire que le public a joué son rôle aux côtés de l'équipe turque.
Oui, pour répondre à Xavier Barrez, ils sont déjà physiquement, mais il faut bien sûr se qualifier. Et avec ce PSG-là, attendons février-mars. Vous savez, c'est le moment clé en général pour cette équipe. Oui, au mois de juin, effectivement, l'équipe de France avait livré son pire match de l'ère Deschamps dans un stade, on parlait des stades super, à Konya, moderne, comme celui dans lequel nous sommes là ce soir, comme celui qu'on a aperçu hier soir en rentrant après dîner du Beşiktaş, la Vodafone Arena. C'est vrai que là, vraiment, en quelques années, pour être venu ici il y a 10-12 ans, on s'est doté de stades vraiment, vraiment très, très compétitifs. Même si celui-ci me semble déjà, il n'a que 8 ans, bien poussiéreux. Enfin bon, voilà, ce sont des stades 5 étoiles pour autant. Et à Konya, il y avait une ambiance de dingo, vraiment. Moi, en 25 ans, j'avais jamais vécu ça. L'équipe de France avait été plus nulle que chez nul. Faut le reconnaître aussi. Mais le public n'y était pour rien. Et les Bleus l'avaient reconnu. C'était un jour sans. Les Turcs l'avaient emporté 2-0. Et c'est vrai que le 14 octobre, il y aura une belle revanche au Stade de France. Et tiens, au passage, ce sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI aussi cette revanche. Et le public sera sans doute très très chaud parce que je peux vous dire que pour connaître pas mal de Turcs et notamment un petit kebab pas cher et très sympa rue des Batignolles, je peux vous dire qu'eux ils ont déjà leur place et pour le match retour Galatasaray et pour le France-Turquie. Et le public turc en France et à Paris sera bien bien présent. Il y aura beaucoup d'ambiance aussi.
Ouais. Xavier Barré, ce club de Galatasaray, revenons un tout petit peu sur lui, sur son histoire, fondée en 1905. Très longue histoire, plus longue que celle du Paris Saint-Germain. Fondée par des étudiants, on connaît un peu la légende, hein, du lycée de Galatasaray.
Du lycée français, Saray,
exactement.
Tradition francophone et francophile.
Et ils ont gardé cette fibre francophile, dit-on, et peut-on lire ?
Oui, oui, absolument. Toute l'élite francophone et francophile turque sort du lycée de Galatasaray. Et pendant longtemps, les dirigeants étaient des supporters de Galatasaray parce qu'ils étaient passés par ce lycée.
Ce où,
voilà. Donc c'est effectivement le club, entre guillemets, des élites, alors que Beşiktaş est un club plus populaire et que Fenerbahçe, qui est le club de
la rive
asiatique du Bosphore,
exactement,
est plutôt le club des commerçants, des riches commerçants qui sont allés s'installer sur l'autre rive du Bosphore. Donc il y a effectivement cette opposition sociale, mais aujourd'hui, vous avez ça s'attend à s'estomper. Vous avez
un mot qu'ils appellent nationalisme, n'est-ce pas, et qui estompe un peu tout ça.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a derrière les clubs des supporters de toutes les classes, des gens riches qui ont réussi, comme des gens des classes populaires. Mais Galatasaray, effectivement, le soutien populaire, les supporters fanatiques auxquels on faisait allusion, sont rarement des gens des élites, sont vraiment des gens des quartiers populaires.
En tout cas, beaucoup de joueurs de Ligue 1 dans cette équipe que va rencontrer le Paris Saint-Germain ce soir. Ils ont été recrutés notamment cet été. Figure de proue, le Colombien, l'international colombien, mais aussi ancien monégasque, Falcao. Voilà, c'était Falcao, accueilli par des milliers de personnes dans le stade justement de Galatasaray, par des milliers de personnes qui étaient là. En fait, ils ont beaucoup recruté. Il y a même deux Primark Vivien Fauet dans cette équipe, Younes Belhanda et Jean-Michel Seri. Seri, un autre Ivoirien, puisqu'on se souvient du passage de Didier Drogba. C'est un hasard qu'ils aient recruté autant en Ligue 1, messieurs.
Il faut savoir que le règlement du championnat turc a changé il y a deux saisons. Désormais, ils ont le droit à 14 étrangers par effectif.
Sur 11. Et 14 sur 11.
Oui, non, et seulement 11 sur la feuille de match. C'est-à-dire que vous en laissez 3. C'est-à-dire que vous en laissez 3. Vous en laissez 3 dans la tribune, enfin à la maison. Ça a changé il y a deux ans. Et auparavant, ils avaient le droit, je crois, qu'à 7 ou 8 étrangers. Parce qu'il faut rappeler que la Turquie ne fait pas partie de l'arrêt Bosman. Il faut rappeler à nos auditeurs. Et donc, la réglementation de l'Union européenne ne s'applique pas au championnat turc. Donc, ils ont fait évoluer leur réglementation. Et du coup, les clubs turcs ont pu acheter plein de joueurs étrangers, et comme notamment les trois clubs stambouliotes ont beaucoup d'argent, eh bien ils proposent des conditions salariales extrêmement intéressantes qui séduisent des joueurs qui n'ont pas forcément les contrats dont qu'ils espéraient, soit en France, soit en Angleterre, soit en Espagne, et qui donc du coup décident de tenter l'aventure à Galatasaray, à Beşiktaş ou à Fenerbahçe.
Moi, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'argent. Le budget de Galatasaray, c'est 130 millions d'euros. En revanche, ils ont des conditions effectivement fiscales très intéressante pour proposer à un mec comme Falcao en fin de carrière, parce que finalement c'est comme ça que ça marche. Ils peuvent fiscalement proposer des salaires très intéressants. Falcao, c'est 7 millions d'euros nets par an et un contrat jusqu'en 2022. À 33 ans, il n'y a pas un joueur qui refuse un tel contrat pour aller jouer en plus dans un club plutôt populaire. Il va retrouver du monde dans les tribunes, ça lui est pas arrivé depuis quelques années à Falcao du côté de Monaco. Mais c'est vrai que voilà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas des budgets énormes, mais ce sont des conditions fiscales très intéressantes qui permettent d'attirer pas mal de joueurs en fin de carrière, ou alors en fin de mercato, ils traînent un peu par là pour récupérer les joueurs qui sont en disgrâce dans leur club et qu'ils peuvent attirer en leur proposant quelques salaires intéressants.
Oui, ça, c'est pour des pré-retraités, on va dire aussi parfois.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec, donc, je disais, Belhanda et Seri. On a aussi Mario Lemina qui ce soir pourra pas jouer. On a Steven Zonzi, champion du monde.
Oui.
Et puis on a Sofiane Figouli et Ryan Babel. C'est quand même une belle équipe a priori, mais alors lors du derby là, face à Fenerbahçe samedi soir, ça n'a rien donné encore, Philippe.
Mais c'est...
Oui, pardon, Olivier Alizé.
C'est pas un bon début de saison en général. Même Falcao, il a marqué un but depuis qu'il est là.
Mais il
n'est pas
assez
un bon
très tard,
début de saison pour Galatasaray. Oui, il a joué 4 matchs. Enfin, un but en 4 matchs pour un type qui a été accueilli comme le Messi. et c'est vrai que voilà, ça peine si vous avez lu ce matin dans l'équipe le papier de François Verdonnet qui était notamment au derby samedi, qui était un très poussif 0-0. Le spectacle était vraiment vraiment dans les tribunes. D'ailleurs, c'est ce qui se dit. Hein. Les spectateurs ici ne viennent pas au spectacle. Ils sont le spectacle même. Mais c'est vrai que ils sont 7e du championnat, 2 victoires seulement remportées depuis le début de saison, et sur la scène européenne, les statistiques sont encore pires. Ils ont gagné un seul de leurs 16 derniers matchs. Ils n'ont pas une victoire depuis un an en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est vrai que ça peine vraiment, surtout cette saison, à trouver la bonne carburation.
Philippe,
De toute façon, ces clubs stambouliotes ne sont pas des géants. Côté foot,
non, mais souvent, on les a vus arriver jusqu'en huitième de finale.
Non, pas souvent.
Excusez-moi.
Oui, au moment de Drogba, deux fois, ils ont passé les poules. Et puis, plus d'une fois, ils sont sortis des poules avec 2 points, 3
c'est
points.
C'est ça.
La norme pour des clubs comme ça, c'est un peu ça.
Oui.
C'est pas plus fort que Bruges. C'est à peu près le même genre de club. Il y a beaucoup de joueurs très connus qu'on connaît bien. Mais ça en fait pas des bonnes équipes, ça suffit pas. S'il suffisait d'aligner des bons joueurs pour avoir une bonne équipe, plein d'équipes le sauraient.
Aujourd'hui, le niveau des clubs turcs est plus en Europa League aujourd'hui. Le Fener, qui la saison dernière avait été éliminé en 16e de finale de la compétition. Aujourd'hui, on les voit davantage. Peut-être que certains de ces clubs-là vont finir 3e de leur poule et donc être reversés en Europa League cette saison. C'est là aujourd'hui où on les attend davantage.
Il y a 2 ans, Beşiktaş, c'était en 8e de finale quand même.
Oui, c'est une rareté, justement.
Oui, il y a un vrai exemple avec Beşiktaş qui contrebalance un peu le cas de Galatasaray actuellement, c'est que Beşiktaş s'inscrivait dans une vraie continuité au niveau effectif. C'était pratiquement toujours les mêmes joueurs qui évoluaient depuis plusieurs saisons ensemble. Et donc, il y avait une vraie équipe autour de bons joueurs. Alors que là, effectivement, pour des raisons de popularité des présidents, ils recrutent. Et effectivement, comme le disait très bien Philippe Doucet, on amalgame des noms. Et ça fait pas toujours une équipe.
Et Beşiktaş est avant-dernier du championnat après 7 journées disputées ou 6 journées disputées. Beşiktaş fait un début de saison absolument calamiteux.
Alors,
et pour revenir sur les 8e et les quarts, un quart pour Galatasaray en 2012-2013.
Avec Drogba.
Ouais, voilà.
Ils avaient
sorti la Ligue sous la neige.
Exactement.
Et un 8e de finale l'année d'après. Ouais. Sinon toujours phase de poule.
En tout cas, clin d'œil d'un ancien parisien qui est aussi international turc. Un clin d'œil aux Parisiens d'un certain personnage. Peut-être le reconnaîtrez-vous.
Bonjour les amis, c'est Mevlüt. Je vous souhaite un bienvenue en Turquie, dans ma ville, à Istanbul. Je vous souhaite un bon match ce soir. Allez Paris.
Allez Paris, dit Mevlüt Erding.
Mev Erding,
oui. L'ancien joueur.
Il est né à Saint-Claude, dans le Jura.
Ça m'a amusé quand il a dit ma ville.
La capitale de la pipe.
Voilà. Mais il est vite peut-être désormais. Il a choisi de vivre sur les bords du Bosphore. En tout cas, le PSG a donc déjà goûté cette ambiance stambouliote. Olivier Prend aussi. Et les joueurs sont prévenus. Thomas Tuchel tente de lutter contre la trop grande satisfaction procurée par la victoire face au Real Madrid. Écoutons l'entraîneur au micro justement d'Olivier Pont.
Galatasaray joue à domicile et c'est toujours un avantage. Et pour ça, c'est plus difficile de jouer ici. Et maintenant, c'est le défi de recommencer encore parce que c'est pas 3-0 pour nous maintenant. C'est 3-0 contre Real Madrid et le match est fini et on doit recommencer. Et ça, c'est le défi. Et peut-être les choses sont plus difficiles parce que tout le monde pense, bah oui, ils ont gagné contre Madrid et voilà, ils doivent maintenant gagner contre Galatasaray, contre Bruges, mais c'est pas comme ça. On doit toujours recommencer, on doit toujours remontrer la qualité et la fin et la mentalité. C'est absolument nécessaire qu'on joue avec le même spirit et le match contre Real Madrid, c'est fini.
Olivier Prond, est-ce que cet entraîneur qui est évidemment prudent et élégant face à ses adversaires, mais est-ce qu'il vous a paru peut-être aussi méfiant parce que depuis la victoire face au Real Madrid, on a eu une autre prestation, notamment contre Reims au Parc des Princes, et ça met peut-être un peu la puce à l'oreille de cet entraîneur.
C'est un pari à deux visages qu'on a depuis le début de saison et particulièrement en Ligue 1. PSG poussif même quand il gagne. Et puis il a été plutôt flamboyant face au Real Madrid. Mais ça, ça n'était qu'un seul match. C'est vrai qu'en championnat, on attend là aussi un peu comme Galatasaray la bonne carburation, même si Paris est en tête de la Ligue 1. Enfin, Paris a perdu quand même deux de ses 8 premiers matchs cette saison dans le championnat français. Mais c'est normal, le discours de Tourelle, il faut être prudent. Ce qui se dit ici, c'est que voilà, si jamais les Parisiens font le don, supportent l'ambiance et le pressing pendant un quart d'heure, ça pourrait dérouler. L'année dernière, à Belgrade, on leur promettait l'enfer. Ils ont gagné 4 buts à 1.
On sait qu'Olivier Pron est un peu enthousiaste après la victoire du Stade de Reims au Parc des Princes. Mais bon, quand même, le Paris Saint-Germain reste...
C'est un métier, la radio, Xavier Barret. Vous devriez en faire plus souvent.
Reste largement au-dessus. Mais bon, effectivement, contre Reims, ils n'ont pas joué. Mais on a vu à Bordeaux qu'ils ont tout de suite réagi et qu'ils ont largement dominé la partie, même
surtout
si le score...
Surtout quand Mbappé est rentré.
Oui, même si le score ne reflète pas cette domination. Donc on sait que le Paris Saint-Germain, effectivement, quand ces joueurs-là veulent jouer, ils sont au-dessus de la plupart des autres équipes, non seulement en France, mais même en Europe. Voilà, après leur motivation, on le sait, c'est la Ligue des Champions. Donc je pense que là, ce soir, sur la pelouse de Galatasaray, ils seront au rendez-vous.
Philippe, la chose à noter dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'y a pas Cavani, hein, qui est toujours blessé, et d'ailleurs qui préoccupe le club et sûrement un peu les supporters. Bon, Neymar.
Bah, moins maintenant que le remplaçant est trouvé.
Bah, on l'a pas encore bien vu à l'œuvre non plus. C'est un peu comme Falcao,
il est pas
du coup.
Par hasard, Icardi. Hein.
Non, c'est certainement.
Pas, c'est pas juste un petit hasard comme ça, c'est qu'il y avait.
Enfin, un petit peu quand même, parce qu'il a signé au dernier moment.
Oui, mais il n'empêche que c'est un recrutement qui était pensé. Parce que
c'est
Cavani,
pas tout à fait le même niveau quand
Cavani,
même.
Cavani, bon, ça c'est ton jugement. C'est
oui,
pas
oui,
très
bah, on verra bien.
En tout cas, c'est pas très
éloigné. On verra bien ses stats au bout d'une ou deux saisons.
Oui, oui, mais enfin, en tout cas, c'est pas si éloigné que ça. Et quand on a Cavani, théoriquement, on ne prend pas Icardi, sauf quand Cavani a son âge, qu'il est blessé régulièrement, et surtout qu'il est en fin de contrat, à la fin de l'année.
Non, mais quand même, ça sera sans Cavani, sans Neymar, Neymar lui
sujet,
suspendu, et peut-être aussi sans Mbappé. Donc, est-ce que ce Paris Saint-Germain, la trait du sang un peu, comme la motivation de la Ligue des Champions suffit?
Bah, la motivation, c'est une chose qui est très intéressante dans le match contre le Real Madrid, c'est que tous ces joueurs-là étaient absents, totalement absents d'ailleurs, on le savait depuis longtemps, que les matchs autour n'étaient pas forcément déterminants, mais on a eu la démonstration qu'ils pouvaient être une très bonne équipe, sans ses stars.
C'est ça.
Tout en n'ayant pas ses stars, ils pouvaient à la fois être une très bonne équipe et marquer des buts, sans avoir besoin forcément d'avoir les stars sur le terrain.
Ça, c'est quand même ça.
Et avoir des individualités qui sont...
Donc la démonstration est intéressante de revoir cela contre Galatasaray, mais aussi à d'autres occasions, parce que contrairement à une légende bien entretenue ici à Paris, il est tout à fait possible de temps à autre de pas avoir ses meilleurs joueurs. Ça arrive à plein de gens dans la vie.
Non,
et puis on reste
légende.
Une très bonne équipe quand même, et on n'insulte pas le type qui est blessé en disant que il ne mérite même pas ces couleurs-là, enfin genre Neymar, etc. Voilà, ça fait partie de la vie d'une équipe. De temps en temps, ils sont absents, il y a ceci, il y a cela, et pour autant, il faut rester une bonne équipe. Et Paris a montré contre le Real qu'il pouvait très bien être une très bonne équipe.
Non, mais
sans
il l'avait montré l'année dernière à Manchester, il l'avait montré à Liverpool, et malgré tout, on les a vus s'écraser. Olivier, Mbappé restera sur le banc, enfin, en tout cas, il sera remplaçant. C'est donné un peu comme certains ici à Paris, mais vous, à Istanbul?
Pour l'instant, on n'a pas l'information définitive. Oui. De toute façon, dès hier, Thomas Tuchel a dit il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Alors on lui a demandé, il va commencer ou alors il va terminer le match, et il a dit, on verra comment ça se passe. Après, il y a eu cette alerte en fin d'entraînement hier. Vraisemblablement, il devrait attaquer sur le banc, et pour faire plaisir à Philippe Doucet, c'est ce qu'on nous a dit, Mauro Icardi devrait être titulaire pour peut-être lui permettre d'avoir un avis intéressant sur la question et de marquer un but. Donc, a priori, Icardi titulaire et Mbappé qui rentre suivant le scénario de la rencontre, bien sûr.
Salim, c'est un PSG qui est peu l'emporter du côté de Fenerbahçe, cette équipe-là.
L'exemple a été donné de Galatasaray. L'exemple a été donné il y a quelques minutes.
Mais
quand
les deux,
évoqué...
ils peuvent battre les deux. Même dans le même match.
C'est ça. L'exemple a été donné par Xavier, je crois, il y a quelques minutes, quand on évoquait l'ambiance de Belgrade la saison dernière. Et au final, on avait vu au Maracana une équipe du PSG qui avait réussi ce qu'il fallait en contrant juste Belgrade, en tenant pendant 10-15 minutes lors d'une bonne période serbe. Là, face à Galatasaray, quand on voit l'effectif de Galatasaray, quand on voit celui du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le PSG est au-dessus sur le papier, et puis depuis le début de la saison, est au-dessus. Galatasaray va pas forcément très bien. Oui, sur le papier, sur le principe, bien sûr que le PSG est au-dessus.
Bon alors Olivier, évidemment. On a entendu derrière vous que la musique apparemment ça devrait être bon.
Hein, il est bien au stade, hein, c'est la preuve.
Oui, oui, ça a pas mal répété, ouais. C'est pas mal parti. On a rendez-vous tout à l'heure avec vous à 20h57, 18h57 et Martin Guez, c'est bien ça.
Si vous arrivez à m'entendre, parce qu'on nous promet tellement, tellement une ambiance, ouais. ce volcan, le jeu de mots depuis hier, c'est de dire que Paris va climatiser ce stade. On verra bien si Paris climatise ce stade.
C'est la spécialité du Qatar de climatiser les stades.
Et vous avez... Vous avez
ouais. Non, mais c'est ouais. Pas mal.
Enfin, on aime beaucoup.
Vous avez sauf que dans les stades, dans les stades au Qatar, il n'y a personne.
Oui, il y aura plus d'ambiance ce soir, normalement. Et
juste des nouvelles par l'intermédiaire de l'ami Bruno Salomon. Vous avez entendu tout à l'heure Mevlut Erding. Lui, il a rencontré hier un autre ancien du Paris Saint-Germain qui s'appelle Pascal Nouma. Ça vous dit quelque chose, Pascal Nouma?
Bien sûr.
La star turque.
Ah oui, énormissime. Il faudra inviter Bruno Salomon pour qu'il vous raconte son aventure avec Pascal Nouma. Ils ont fait 100 mètres de la place Taksim au consulat de France, parce que Pascal Nouma souhaitait être interviewé au consulat de France car c'était plus calme. Et ils ont fait, je crois qu'ils ont mis une demi-heure pour faire les 100 mètres. C'est une star, il a joué dans le Star Trek local. Il est DJ, il a fait danser avec des stars. Bref, on peut être un joueur de foot très moyen en France et devenir une star en Turquie. C'était juste pour cette petite anecdote.
C'est méchant parce qu'en tout cas là-bas, il a réussi des choses aussi sur le terrain, oui. Et sa popularité est née de là quand même. Il n'est pas tout d'un coup été une vedette de cinéma sans avoir été bon sur le terrain avec le Beşiktaş.
Merci beaucoup Olivier, rendez-vous donc tout à l'heure dans l'émission spéciale et ensuite on se retrouvera dans Radio Foot International. Bon match alors avec
merci, bonne
avec
fin
les camarades turcs. Le Real Madrid en levée de rideau, vous le savez, il y a aussi des matchs à 18h55, heure de Paris désormais, en Ligue des Champions, 16h55 en temps universel. L'équipe des Merengues a donc pour mission, on imagine, peut-être pour obligation même, de rebondir face à Bruges, club de Belgique donc, et ils joueront à Santiago Bernabéu. Alors deux possibilités d'effacer sans doute, deux atouts on va dire, pour effacer le non-match du Parc des Princes il y a deux semaines. Peut-être sera-ce l'heure du réveil de l'international belge face à une équipe belge. Ce belge de l'effectif madrilène, c'est évidemment Eden Hazard. Les madridistas, d'ailleurs, commencent à trouver le temps long de le voir enfin au niveau qu'il affichait du côté de l'Angleterre. Eden Hazard a voulu les rassurer hier, ou peut-être même se rassurer lui-même.
Je pense que les critiques, c'est normal qu'elles soient là. Elles me font pas mal, pas du tout. Voilà. J'ai jamais vraiment porté attention. D'ailleurs, je sais quand je joue bien, je sais quand je joue pas bien, je sais que les premiers mois étaient compliqués, voilà, il y a eu la blessure. Tout le monde s'attend à ce que je marque 3 buts à chaque match, mais voilà, il faut un peu de temps. Et voilà, après les buts, ils vont venir, les beaux gestes, ils vont venir. Et voilà, après, j'ai pas de doute sur mes capacités, sur mes qualités. Je sais que je suis un très bon joueur et comme je dis, ça marche juste à la confiance. Une fois que je serai en confiance, ben, je donnerai le meilleur de moi-même et ce sera bien.
Vous avez des doutes, vous, Salim Bongali?
Absolument aucun doute perso. Enfin, Eden Hazard, oui, il est, comme il le dit lui-même, il est arrivé déjà en méforme, hein, disons-le clairement, avec quelques kilos en trop, pour pas dire plus même. Donc, il se doit de s'affiner, il se doit aussi de découvrir un nouveau championnat, parce qu'on parle effectivement de sa qualité technique, qui serait compatible au championnat espagnol, mais malgré tout, ça prend un certain temps de s'adapter et à un nouveau championnat et à des nouveaux joueurs. Au final, on est qu'en septembre, donc début octobre, attendons encore un petit peu quand même. Mais Eden Hazard va quand même, quand vous avez des joueurs comme Karim Benzema, ça ne peut que marcher.
Il a été très transparent au Parc des Princes le jour face au Paris Saint-Germain.
Comme l'ensemble des joueurs du Real.
Oui, mais lui aussi.
Il revient de blessure en plus, donc il n'était pas du tout dans le rythme.
Et quand il dit j'attends que revienne la confiance, elle vient d'où la confiance? C'est un mot comme ça, mais vous l'expliqueriez comment?
Il
ne
faut pas oublier qu'il sort de 7 saisons à Chelsea. Ouais. Il était dans sa maison là-bas. Ouais. Et il avait une équipe qui jouait pour lui. J'ai commenté beaucoup de matchs de Chelsea sur Canal+, et je peux vous dire qu'effectivement, le ballon, tous les joueurs le récupéraient, y compris N'Golo Kanté, pour le donner à Hazard. Et on attendait de lui un exploit. Là, il est au Real Madrid, où il y a autour de lui d'autres joueurs qui déjà sont dans la maison depuis longtemps, à commencer par Karim Benzema, mais qui aussi ont l'habitude qu'on joue pour eux. Donc il faut qu'ils s'adaptent. Effectivement, le contexte est très différent pour un joueur, même de son talent, de sa personnalité. Et donc ça nécessite quelques mises au point, et ça peut prendre encore quelques semaines.
Donc il faut être juste patient.
Oui, parce que je pense
qu'il faut... On dit ça aux madridistas, hein, parce que...
Oui. Non, mais le Real, c'est une autre exigence. Il y a des degrés dans les clubs, et malgré tout, Chelsea n'était pas...
Même un grand joueur, quand il arrive dans un Real comme ça, il a besoin d'un temps d'adaptation. On pense à Griezmann aussi, au Barça, il y a plein de grands joueurs en ce moment.
Les témoignages que j'avais sur Hazard concordent assez bien avec cette période-là. C'est-à-dire, Hazard, c'est une personnalité, c'est un type adorable, super sympa, assez relâché, assez décontracté et autres. Et cette exigence du très haut niveau, ce qui fait que Cristiano Ronaldo à chaque match veut marquer, ce qui fait que Messi emmène son équipe à chaque match, etc. Hazard a le même talent. Je pense qu'il est très très, il est tout à fait de cette catégorie-là.
Il a ce haut niveau dans la tête.
Mais dans son comportement, dans son exigence professionnelle, il n'est pas de la race de ces très grands naturellement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les témoignages que j'ai de grands joueurs qui étaient auprès de lui et qui disaient, mais c'est incroyable, ce mec, il est exceptionnel, c'est Messi, mais pas avec le même caractère naturellement. Et je pense que venir au Real en cette année où il a quoi? Il a 28 ou 29, 29 maintenant, Eden. Je pense que c'est le moment où il doit révéler ce caractère, être plus exigeant vis-à-vis de soi-même. On va voir s'il est capable de le faire, parce qu'il sera obligé de le faire, parce qu'au Real, l'exigence, elle est incomparable, même avec Chelsea. Hein. Mm-hmm. C'est un autre monde encore.
Pour corroborer les propos de Philippe, la saison dernière sur RMC Sport, on avait diffusé un document autour d'Eden Hazard, avec son propre témoignage également, et il le disait lui-même, et ce qu'il veut avant tout, c'est s'amuser. C'était le terme qu'il utilisait.
Ouais, il adore le foot.
Effectivement, il adore le foot, il adore dribbler, il adore toucher ce ballon, c'est une bonne chose, et il a raison d'avoir cette envie-là d'abord. Mais lorsqu'on est au Real, au Barça, à Manchester, enfin dans les très grands noms en tout cas, ceux qui veulent être des grands noms, et ben vous devez demander de vouloir gagner, de vouloir marquer. Et est-ce qu'il a totalement cette envie? Peut-être pas. Est-ce qu'il va devoir l'avoir? C'est sûr.
Moi, je l'ai vu sur des bouts de match, ou des matchs particuliers, ou des bouts de match où tout d'un coup, il prenait les choses en main, il voulait faire gagner son équipe. Je l'ai vu le faire. Donc, il est capable de le faire.
Bien sûr.
Et il est capable d'amener ça au Real. Mais
c'est
pas complètement naturel pour lui. Il faut forcer sa nature.
Dans un autre groupe de cette Ligue des Champions, le groupe D, c'est la Juventus de Turin qui avait fait match nul. On s'en souvient à Madrid, c'était face à l'Atlético. Cette équipe recevra le Bayer Leverkusen et Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur de cette Juve. Eh bien, il est prudent. Il force surtout le trait quand même de son adversaire allemand, un adversaire très athlétique.
Tout le monde doit penser au Bayer Leverkusen et pas à l'Inter. Ce sera un match très difficile contre une équipe forte qui ne compte qu'un seul point de retard sur le Bayern Munich. C'est le club de Bundesliga avec la meilleure possession de balles, mais également les meilleures données physiques. Et vous savez que les standards physiques sont élevés en Bundesliga. Cela signifie que ce sera une rencontre très difficile pour nous. C'est une équipe qui m'a aussi surpris dans sa manière de transmettre le ballon. Ils ont la qualité pour contrôler la possession de balle pendant la majeure partie d'un match. Ce serait une grande erreur de notre part de ne pas se concentrer sur cette rencontre.
Alors, Maurizio Sarri, on l'entend, vanter le côté athlétique de ce Bayer Leverkusen. Xavier Barré, c'est bon, de bonne guerre, mais quand même, en face, c'est le côté allemand.
Oui, mais enfin, Leverkusen, justement, c'est...
Son septième, mais à un point, finalement, du Bayer qui est premier.
C'est la belle équipe. C'est l'équipe qui joue bien au football. C'est un club formateur qui est d'ailleurs une vraie réputation, d'où sortent beaucoup de jeunes internationaux allemands.
Et qui en a un très bon en ce moment.
Kai Havertz.
Oui, Kai Havertz. Mais là, je les ai commentés lors de la première journée contre le Lokomotiv Moscou. Ils ont perdu à la Bayer Arena.
Terrible.
Il manque vraiment quelque chose dans ce club-là. Et ça fait 15 ans que c'est comme ça. Depuis qu'ils ont... depuis la fameuse finale de 2002. Ils perdent tout cette année-là. Ils perdent la finale de la Ligue des Champions, ils terminent deuxième du championnat, ils perdent la finale de la Coupe d'Allemagne. Donc c'est une équipe qui est vouée à être un peu le pouli d'or du football allemand. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire mieux que...
C'est pas mal. Ils ne sont pas souvent deuxième.
Ils ont réussi à...
Pouli d'or, ils étaient deuxième quand même.
Oui, Leverkusen, ils ont été souvent deuxième au début des années 2000, un peu moins maintenant. Un peu moins
maintenant.
Mais ils sont régulièrement en Ligue des Champions. Mais après, il leur manque quelque chose pour passer. Parce que c'est le club d'une entreprise, l'entreprise Bayer. Donc il y a un certain confort. Il n'y a pas la même histoire que la Juventus, c'est certain. Le stade, la Bayer Arena est un très beau petit stade, mais c'est pas un stade où il y a une ambiance comme en Turquie ou ailleurs. C'est pas un club où il y a une grosse passion. Je me souviens, j'avais fait un reportage pour France Football à l'époque, et ils venaient de recruter Bernd Schuster, et ils disaient, on a fait venir Bernd Schuster, c'était Rainer Kallmund qui était le grand manager du club, et il dit, on fait venir Bernd Schuster pour donner un peu de caractère à notre équipe. Et c'est le souci du Bayer Leverkusen depuis qu'il est né pratiquement. C'est que c'est un club qui a pas vraiment d'âme, qui manque de caractère. Alors c'est très beau, c'est très propre, mais je pense pas que ce soit une équipe qui puisse poser beaucoup de problèmes à la Juventus.
Salim, totalement d'accord. Et pour revenir sur le sportif même, effectivement, quand on a vu le premier match face au Lokomotiv, quand ils perdent 2-1, Krikoviak, d'ailleurs très bon, l'ancien du PSG dans cette équipe pardon, du Lokomotiv.
On a tous noté.
Non mais vraiment, vraiment très bon sur cette rencontre là. Enfin, le Leverkusen était tellement en dessous, la Juve quand même semble à un certain niveau, et la Juve, il est vrai, attend aussi son match face à l'Inter qui aura lieu ce week-end, gros match en championnat, mais malgré tout, enfin la Juve est tellement au-dessus aujourd'hui, et le Leverkusen aujourd'hui son objectif c'est peut-être même d'être troisième du groupe et d'aller en Europa League et pas plus. Hein.
Philippe, est-ce que le mariage récent entre la Juve qui a déjà accumulé 7 titres de championne d'Italie et Maurizio Sarri prend, selon vous?
J'ai pas vu dans les matchs que j'ai vus de la Juve depuis le début de saison, j'ai pas vu de dichotomie entre les deux. On aurait pu penser effectivement qu'il viendrait avec des
idées.
C'est
ce qu'on attendait en général.
Des idées de football un peu plus léché, un peu moins calculateur et autres.
Est-ce qu'il est prudent? D'abord, je trouve que
cette Juve, c'est quand même ces dernières saisons, s'est améliorée. C'est une équipe qui est plus spectaculaire qu'on ne le dit, parce que parfois il y a des clichés qui durent. Donc éternellement, ah ben les Italiens, ça joue mal au foot. Ils calculent. Ah ben ceci, ben cela. Bon, la Juve s'est améliorée. Elle était sur ce registre-là quand elle est arrivée en 2015 en finale de la Coupe d'Europe. Mm-hmm. Elle était encore sur ce registre-là. Depuis, très honnêtement, on sent une progression petit à petit. Les différents entraîneurs sont passés. Allegri a fait aussi pas mal de travail. On sent une équipe qui, quand ça va mal, ils sont capables de le faire le 1-0 à l'ancienne. Mais ils sont capables de faire autre chose. Et je pense que finalement, l'écart avec Sarri n'est pas si éloigné que ça. Et que je trouve que Sarri a apporté très certainement sa touche. Mais il n'y a pas un changement fondamental. Cette Juve ressemble réellement à celle de l'an dernier.
Oui. On lui
pour moi, elle est dans la continuité.
Si on attend de Sarri qui transforme la Juventus en Naples de Sarri, mm-hmm, il y a deux ans avant qu'il aille à Chelsea, je pense qu'on va être déçu. Mm. Parce que à Naples, il a créé une équipe à partir
Absolument.
De pas grand chose.
C'est tout à fait différent.
Avec des joueurs, effectivement, qu'il a choisis, ceux qui voulaient bien rester parce que Naples aussi a vendu pas mal de mm-hmm. joueurs, à commencer par Cavani ou encore récemment Marek Hamšík. Mais à la Juve, il rentre dans une institution.
Il y a des joueurs cadres partout.
Cristiano Ronaldo qui évoque sa retraite ou possible retraite en marge d'une promotion, d'une opération commerciale, on l'a tous noté, de marketing. Est-ce que c'est pour vous une fausse confidence, Xavier Barré, ou vraiment on peut se dire le joueur commence à y penser? Il a dit qu'il pense à l'après-football depuis 5 ans et que qui sait si ce qui se passera dans un an ou deux.
Oui, et puis la dernière fois, il avait dit qu'il voulait...
Parce qu'il y a la Coupe du Monde, donc... et puis la Coupe du Monde, comme c'est en novembre, ça fera 4. Il faut aller jusqu'en juin 2020, 3, enfin bon... Et puis après, il y a l'Euro l'année d'après, c'est quand même tentant.
Bon, donc il ne faut pas y croire.
Non, vu athlétiquement...
Il a dit qu'il jouait jusqu'à 40 ans, n'est-ce pas?
Hein?
Il avait dit qu'il voulait jouer jusqu'à 40 ans.
Oui, bon, donc... ça, ce qu'il dit, c'est une chose, mais quand on le voit jouer, quand on voit qu'athlétiquement, il est toujours à un niveau exceptionnel, je ne vois pas de signe annonciateur de
Au final, il n'a que
retraite.
34 ans.
Donc c'était un coup de marketing?
Un petit peu. Après qu'il y pense, pourquoi pas, il est forcément plus proche de la retraite que du début de sa carrière, c'est un fait. Après, il y a encore du temps, profitons-en, que ce soit lui et Messi. Profitons-en.
À Londres, une confrontation très attrayante entre le finaliste de la dernière édition, Tottenham, et le Bayern Munich. Les Spurs avaient été accrochés à Athènes, on s'en souvient, remontés par l'Olympiakos alors qu'ils menaient 2-0. Et les voilà donc face, peut-être on peut dire, au serial buteur de la Bundesliga, à savoir Robert Lewandowski, toujours aussi performant. Alors à un moment... où le champion du monde, qui est Hugo Lloris, je regarde Salim parce que il s'est illustré ce week-end par une grosse erreur lors du match face à Southampton. Avant que peut-être vous le défendiez, on va écouter son entraîneur, Mauricio Pochettino, qui lui aussi a défendu son gardien.
Oh, attention! Oh, attention, Hugo Lloris! L'énorme bourde du gardien français! Lloris plombe les siens! Terrible!
Lloris a fait une grosse boulette, mais c'est comme quand un attaquant manque un but, rate un pénalty ou une passe. C'est le même genre d'erreur. C'est aussi ça le football. J'ai été joueur professionnel et je sais ce qui se passe sur le terrain. Seuls ceux qui ont joué peuvent comprendre ce que cela veut dire d'évoluer constamment sous la pression. C'est pourquoi je conçois qu'un joueur puisse parfois avoir un moment d'égarement. Alors maintenant, il est vrai que si vous ne tentez rien, vous ne faites pas d'erreur. Mais vous n'êtes pas non plus impliqué dans le match.
Est-ce qu'on doit concevoir qu'un gardien fasse une erreur comme ça, nous dit Pochettino, et surtout, il a l'air de dire, si on n'est pas joueur professionnel, on ne peut pas comprendre.
Non, je pense que même quand on l'observe, on peut à la limite comprendre, ou en tout cas, oui, essayer de comprendre. Le truc, c'est que Mauricio Pochettino demande aussi à ses joueurs, et notamment à son équipe, de relancer très court, hein, vous savez, de repartir de derrière. De ne pas
là, c'est
dégager
très très
loin.
Court, le ballon est pratiquement sur
après,
la ligne.
Après, il a
but.
Quand même une erreur effectivement de la part du Français parce qu'il prend énormément son temps. On a l'impression qu'il ne voit pas sur son côté droit qu'il y a Danny Ings pour pouvoir l'attaquer. Donc oui, c'est évidemment une erreur de Lloris. Après, je ne le défends pas.
Il est coutumier de ce genre d'erreur.
Coutumier. Alors oui, non, quand même, parce qu'on
la finale en fait, de la Coupe du Monde.
Mais justement, il y a des images qui ont marqué. Vous avez raison de le dire lors de la finale ou contre la Suède ou d'autres erreurs. Après, elles ne sont pas si fréquente que cela quand même avec non, Tottenham d'une part et sur cette partie-là il n'a pas été bon sur cette occasion-là, vous avez raison de le dire. En seconde période en revanche il a été excellent avec quelques parades clés alors que Tottenham était à 10 contre 11 hein, depuis la demi-heure suite à l'exclusion de Serge Aurier. Il a été très bon en seconde et il a réalisé les parades qu'il fallait pour permettre à Tottenham de s'imposer. Il
n'est
pas
exemple
de reproche,
très grand gardien,
vous avez raison de
sait,
dire
mais...
Après voilà, il s'est rattrapé, heureusement pour lui.
Mais c'est ça qui est étonnant des fois, Philippe. C'est peut-être, je sais pas, une absence ou ce côté des fois petite saute de concentration, mais chez un personnage qui a l'air en plus très linéaire, quoi, toujours concentré.
Mais il est sûrement plus créatif qu'on ne le pense. Il est sûrement, d'abord, c'est un garçon très intelligent, donc peut-être que ses réflexions sont trop nombreuses dans des moments dans des moments clés comme ça. Mais Pochettino l'a dit, Manuel Neuer a impressionné dans les années début des années 2010, tout le monde a regardé Neuer en se disant c'est exceptionnel, c'est comme un joueur de plus, etc. Et puis il a pris deux trois boulettes monstrueuses Neuer dans cet exercice là. Et puis tout le monde tout d'un coup tombe dessus en disant oh, c'est pas possible. Bah si, c'est possible si vous regardez tout le match. Si vous regardez la fréquence à laquelle vous relancez comme ça, bah, mécaniquement, c'est évident que le gardien de Manchester City, de Tottenham, de quelques équipes un peu clés qui balancent pas des saucissons en l'air à 50 mètres de haut, évidemment, ça va leur arriver un jour. C'est fatal. C'est fatal.
Lloris là, Alisson la saison dernière face à Leicester. Parce qu'encore une fois, ces équipes-là et ces gardiens veulent relancer court et partir de trop bas.
On peut pas d'un côté dire c'est un joueur de plus, un relanceur, et puis dire ah bah oui, non mais lui il a pas le droit de faire d'erreur. Ah bon? Bah,
non,
les autres, c'est un gardien, on le voit plus.
D'ailleurs, Lloris.
Oui, voilà. Lloris. On voulait pas non plus le décrédibiliser. Ah, hein, c'est pas ça, mais c'est notable. Et, c'est bien de comprendre aussi, ou d'essayer de comprendre, Xavier.
Oui, d'ailleurs, Lloris s'est exprimé sur le sujet après sa boulette contre la Suède avec l'équipe de France. Et il avait dit, effectivement, c'était pas le meilleur choix, mais à l'entraînement et en match, Pochettino nous demande de relancer proprement et
Deschamps aussi
donc assez logiquement voilà
non, il avait oublié que
mais il expliquait ça donc c'est assez logique que Pochettino lui demande que Pochettino le défende là sur ce ça. Cas précis et prenons un autre exemple, je me souviens c'est quoi c'était la saison dernière Ter Stegen fait une boulette à Vigo et le Barça perd 4-3 contre le Celta. Eh bien vous avez vu le week-end dernier que ce genre de gardien qui est capable de jouer avec ses pieds, ça permet aussi au Barça de gagner à Getafe avec une passe directe pour Luis Suarez qui a ouvert le score de cette manière. Donc effectivement, on prend parfois des risques. Souvent ils rapportent, parfois ils se retournent contre le gardien.
Autre rencontre de la soirée, on verra si ce soir il y a lieu d'en parler beaucoup plus. Il y aura l'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit l'Olympiakos. On a aussi Manchester City qui recevra le Dynamo Zagreb et le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'Atlético Madrid. À noter aussi dans les matchs de début de soirée qu'on aura Atalanta Bergame, Shakhtar Donetsk. Pour terminer l'émission, je voulais qu'on fasse un crochet par l'Angleterre, même pas Londres, du côté de Manchester.
Vaut mieux rester sur la regarde vu le niveau du match hier, non?
on va quand même parce qu'on peut se souvenir d'une finale de Coupe d'Europe, peut-être celle de 2009. n'est-ce pas? C'était Arsenal Manchester United. Non, c'est
demi-finale. Arsenal Manchester effectivement, et à l'époque Manchester s'était qualifié face à Arsenal.
Donc hier soir, on en avait parlé nous dans Radio Foot en se disant c'est l'affiche de la 7e journée de Première Ligue.
Papier était
On présente sur le papier. Après on regarde le match et là pour paraphraser quelqu'un, ça a fait totalement pchit. En plus sous la pluie, Manchester United Arsenal plutôt indigeste, on a un score de 1-1. Alors, les temps donc ont beaucoup changé dans les deux clubs, mais surtout on a un Manchester United 10e à 12 points de Liverpool. Est-ce que c'est grave, docteur Salim?
Ah, c'est très grave, docteur, parce que hier, quand on voit la manière de jouer du United, mais comme depuis le début de saison d'ailleurs, il y a aucun allant, aucun plaisir déjà à regarder United, et sur le terrain. On voit des joueurs qui, certes, sont ensemble avec le même maillot, mais aucun lien, milieu attaquant. Rashford, je l'ai
même très le but est très très beau, le but de Tomine.
C'est une frappe repoussée, c'est pas une action construite, j'ai envie de dire. Au final, c'est plus un contre, hein, puisque ça part d'un corner d'Arsenal qui, au final, termine sur un contre, et donc cette frappe superbe de McTominay. Mais il y a aucun lien et aucune belle depuis le début de la saison. Honnêtement, je vois tous les matchs de United, j'ai pas pris un moment de plaisir avec cette formation.
Il y a eu le premier match, un 4-0 contre Chelsea, mais qui était très flatteur.
Chelsea qui
était très flatteur, et plein de gens ont déduit que ça y est, Manchester United était revenu. Moi, j'avais pas vu de différence profonde.
Exactement.
À part une réussite magnifique, et ce jour-là, Rashford était dans un autre
monde.
Rashford et Martial fait des différences énormes. Ok. Mais voilà, c'est dans la continuité. L'équipe ne progresse plus. Elle ne progresse pas. Elle est au niveau que vous l'a laissé Mourinho et elle n'a pas progressé depuis. Elle a fait une bonne série.
Mais Philippe, c'est
Solskjaer
où le
est arrivé, mais
comment on
non,
peut résoudre ça?
C'est un club qui est en échec. C'est un club qui
voilà,
est en échec.
Exactement.
C'est pas une équipe,
parce qu'on voit toujours Ferguson qui est là, qui quand même chaperonne tout ça. Et malgré tout, on a l'impression que quels que soient les entraîneurs, et on les a cités dans Radio Foot il y a quelques jours, il y en a beaucoup qui passent. Et finalement, ça n'évolue pas.
Non, c'est un club qui est en échec, qui ne fait pas rêver, qui budgétairement est toujours parmi les trois plus gros budgets au monde.
Ouais.
Donc le premier en Angleterre, notamment, dont la popularité est inattaquable. Et la popularité reste gigantesque. C'est le club
référence. Peut-être que les gens vont se lasser aussi.
En Angleterre. Et cette série est quand même inquiétante, car très longue. Ça fait six années que c'est médiocre.
Ça risque d'avoir effectivement des conséquences économiques, ces mauvais résultats. C'est Mourinho d'ailleurs qui
l'a
dit.
On dirait non, hein, parce que plus ça merde.
L'année dernière, en tout cas,
ça échoue et plus le budget monte.
Non, Philippe, détrompe-toi. Oui, parce que les droits télé ont augmenté. Mais en ce qui concerne les contrats marketing, et c'est Mourinho lui-même qui l'avait déclaré, si Manchester United ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions plusieurs années de suite, eh bien, il y a des droits marketing qui vont tomber, qui sont même, je crois, réduits de moitié. Donc, il va falloir regarder ce qui se passe à ce niveau-là à Manchester United. Et le fait qu'ils recrutent moins à l'extérieur et qu'ils fassent confiance en jeunes, c'est peut-être lié aussi à ça.
Une dernière chose que j'aimerais qu'on parle, c'est le cas Nicolas Pépé, de l'autre côté, du côté d'Arsenal. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est lui qui marque, c'est lui qui débloque la situation.
Toujours.
Mais Nicolas Pépé, alors, est-ce qu'on doit le mettre au même rayon que Eden Hazard du côté du Real, que Griezmann du côté du Barça? C'est-à-dire, il lui faut du temps.
C'est ce que j'allais vous dire. Alors, le truc, c'est que Eden Hazard et Antoine Griezmann ont plus prouvé, j'ai envie de dire, évidemment, avec leur club. Là où Nicolas Pépé, au final, c'est une très grande saison. Mais pardon, une très grande saison avec LOSC, au final. Donc, c'est là où on l'attend chez un autre grand nom.
On dépense pour lui 80 millions et Arsenal n'avait jamais dépensé autant.
Bien sûr, n'avait jamais dépensé autant.
Il y a quand même
une certaine pression, effectivement, qui est mise sur ses épaules. Là encore, je demande malgré tout un peu de patience. Surtout, je demande aussi le retour de Lacazette. Parce que le trio, Lacazette, Pépé, Aubameyang, j'ai beaucoup plus confiance en ce trio qu'en un duo avec une seule personne. Je le trouve moins intéressant dans ce système-là que dans un trio avec
oui,
les
où il était habitué à un trio d'ailleurs, on se souvient à Lille. Philippe, inquiet pour Pépé?
Pas tant que ça,
parce qu'il a quand même traversé
malgré la saison fantastique qu'il a fait l'année dernière et où j'ai été surpris, mais je pense comme tout le monde, car
Prix
je considère que c'est pas, pour moi c'est un pur talent, mais qui ne me semble pas être un joueur fini encore. Et j'avais été très étonné que ça dure, que vraiment il fasse 9 mois de très haut niveau, à part la CAN. Mais la CAN, très honnêtement, moi je le voyais au Caire, il était franchement perturbé par l'histoire du transfert, par la crainte de se blesser. On sentait que c'était pas le...
Bon, ouais, et puis, oublions la CAN. L'équipe était pas non plus...
Oui, mais enfin, il n'était pas au rendez-vous, il n'était pas là. Mentalement, quelque part, il n'était pas là. Bon, oublions cet aspect-là. Mais en dehors de ça, il a fait 9 mois remarquables avec Lille. Et moi, ça m'avait beaucoup surpris, parce que pour moi, c'est pas un joueur complètement fini. Donc, en ce sens-là, je suis pas complètement surpris. Qu'à Arsenal, ça marche pas immédiatement, parce que tout d'un coup, il se retrouve avec d'autres sacrés joueurs autour de lui, avec une autre pression. Mais il va falloir, bien évidemment, que ça progresse. Même s'il est jeune, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'exigences à ce niveau-là.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Première édition, n'oubliez pas, le rendez-vous avec la deuxième édition à 21h10 en temps universel. Et pour ce qui est de l'émission spéciale, 20h57, heure de Paris. À tout à l'heure avec David Finzel et Laurent Salerno.